Jules Verne, César Cascabel, première partie, chapitre 4. Grande détermination. Canaille. C'était bien le nom qui convenait à de tels gueux, mais la famille n'en était pas moins volée. Chaque soir, M. Cascabel avait l'habitude de vérifier si le coffre était bien à sa place. Or, la veille, il s'en souvenait, à la suite des rudes fatigues de cette journée, tombant de sommeil, il n'avait pas fait sa vérification habituelle. Évidemment, pendant que Jean, Cendre et Clou étaient allés avec lui chercher les objets abandonnés au tournant de la passe, les deux conducteurs, ayant pénétré sans être aperçus jusque dans le dernier compartiment, s'étaient emparés du coffre-fort et l'avaient caché sous quelques broussailles à la lisière du campement. Voilà pourquoi ils avaient refusé de passer la nuit à l'intérieur de la belle roulotte. Puis, ils avaient attendu que toute la famille fût endormie et s'étaient enfuis avec les chevaux du fermier. De toutes les économies de la petite troupe, il ne restait plus rien, si ce n'est quelques dollars que M. Cascabel avait dans sa poche. Et encore était-ce heureux que ces coquins n'eussent point emmené Vermouth et Gladiator. Les chiens, depuis 24 heures, déjà habitués à la présence des deux hommes, n'avaient pas même donné l'éveil, et le méfait s'était accompli sans difficulté. Où retrouver les voleurs, maintenant qu'ils s'étaient jetés à travers la Sierra? Où retrouver l'argent? Et, sans cet argent, comment traverser l'Atlantique? Le désespoir de la famille se traduisit par les larmes des uns, par la fureur des autres. Tout d'abord, M. Cascabel fut en proie à un véritable accès de rage, et sa femme, ses enfants, eurent bien de la peine à le calmer. Mais, après s'être ainsi abandonné à sa colère, il redevint maître de lui, en homme qui ne doit pas perdre son temps en vaines récriminations. « Maudit coffre !» ne put s'empêcher de dire Cornelia au milieu de ses larmes. « Il est certain, dit Jean, que, si nous n'avions pas eu de coffre, notre argent... « Oui ! Une belle idée qui m'est poussée là, d'acheter cette satanée boîte !» s'écria M. Cascabel. « Décidément, quand on a un coffre, il est prudent de n'y rien mettre. La belle avance qu'il soit à l'épreuve du feu, comme me disait le marchand, du moment qu'il n'est pas à l'épreuve des voleurs !» Il faut le reconnaître, c'était là un rude coup pour la famille, et on ne peut trouver surprenant qu'elle en fût accablée. Volée de 2 000 dollars gagnés au prix de tant de peine. « Que faire ?» dit Jean. « Que faire ?» répondit M. Cascabel, dont les dents serrées semblaient mâcher les paroles. « C'est très simple. C'est même extraordinairement simple. Sans chevaux de renfort, nous ne pouvons continuer à remonter la passe. Eh bien, je propose de retourner à la ferme. Peut-être ces gueux y sont-ils. »« À moins qu'il n'y ait pas reparu, » répliqua Clou de Girofle. Et, vraiment, c'était plus que probable. Toutefois, comme le répéta M. Cascabel, il n'y avait pas d'autre parti à prendre que de revenir en arrière, puisqu'on ne pouvait aller en avant. Là-dessus, Vermouth et Gladiator furent attelés, et la voiture commença à redescendre le défilé de la Sierra. Cela ne se fit que trop facilement. Hélas, on va vite lorsqu'il n'y a plus qu'à dévaler des pentes, mais on marchait l'oreille basse, en silence, si ce n'est que, de temps en temps, une bordée de jurons s'échappait de la bouche de M. Cascabel. À midi, la belle roulotte s'arrêta devant la ferme. Les deux voleurs n'y étaient point revenus. En apprenant ce qui avait eu lieu, grande colère du fermier, qui ne s'inquiéta guère, d'ailleurs, de la famille. Si on lui avait volé son argent à elle, on lui avait volé ses 3 chevaux à lui. Après s'être enfui dans la montagne, les malfaiteurs avaient dû se porter au-delà de la passe. Courait donc à leur poursuite. Et le fermier furieux n'était pas éloigné de vouloir rendre M. Cascabel responsable du vol de ses bêtes. « Voilà qui est raide, » dit celui-ci. « Pourquoi avez-vous de pareils coquins à votre service, et pourquoi les louez-vous aux honnêtes gens ?»« Est-ce que je le savais ?» répondit le fermier. « Jamais je n'avais eu à me plaindre d'eux. Ils venaient de la Colombie anglaise. »« Ils étaient anglais ?»« Sans doute. » « Dans ce cas, on prévient le monde, monsieur, on le prévient !» s'écria M. Cascabel. Quoi qu'il en soit, le vol était commis et la situation était extrêmement grave. Mais si Madame Cascabel ne parvenait pas à prendre le dessus, son mari, avec ce fond de philosophie foraine qui lui était propre, finit par recouvrer son sang-froid. Et, lorsqu'ils furent réunis dans la belle roulotte, une conversation s'engagea entre tous les membres de la famille, conversation de la plus haute importance, de laquelle allait sortir une grande détermination, ainsi que le dit M. Cascabel en faisant rouler les airs. Enfin, il y a dans la vie de ces circonstances où un homme résolu doit savoir se décider. J'ai même observé que ces circonstances sont généralement désagréables, telles celles où nous nous trouvons par le fait de ces malfaiteurs, des Anglais, des Englishmen. Donc il s'agit de ne pas aller par quatre chemins, d'autant plus qu'il n'y en a pas quatre. Il n'y en a qu'un, et c'est celui que nous prendrons tout à l'heure. Lequel ? Demanda Cendre. Je ferai tout à l'heure connaître le projet qui m'est venu à la tête, répondit M. Cascabel. Mais, pour savoir s'il est exécutable, il faut que Jean apporte sa machine où il y a des cartes. Mon atlas, dit Jean. Oui, ton atlas. Tu dois être très fort en géographie. Va chercher ton atlas. À l'instant, père. Et, lorsque l'atlas eut été déposé sur la table, M. Cascabel reprit en ces termes. Il est bien entendu, enfant, quoique ces coquins d'anglais, comment ne me suis-je pas douté que c'était des anglais, nous aient volé notre coffre. Il est bien entendu, dis-je, que nous ne renonçons pas à notre idée de retourner en Europe. Y renoncer ? Jamais ! S'écria Madame Cascabel. Dignement répondu, Cornelia. Nous voulons rentrer en Europe et nous y rentrerons. Nous voulons revoir la France et nous la reverrons. Ce n'est pas parce que des gueux nous ont dépouillés que... Moi d'abord, il me faut l'air du pays, ou je mourrai. Et je ne veux pas que tu meures, César. Nous sommes partis pour l'Europe. Malgré tout, nous y arriverons. Et de quelle façon ? Demanda Jean avec insistance. Oui, de quelle façon ? En effet, de quelle façon ? Répondit M. Cascabel, qui se grattait le front. Certainement, en donnant des représentations sur notre route, nous parviendrons à gagner au jour le jour de quoi conduire la belle roulotte jusqu'à New York. Mais une fois là, faute de la somme nécessaire pour payer sa place, pas de paquebot. Et sans paquebot, pas possible de traverser la mer autrement qu'à la nage. Or, il me semble que cela sera assez difficile. Très difficile, monsieur patron, répondit Clou. À moins d'avoir des nageoires. En as-tu ? Je ne crois pas. Eh bien, tais-toi et écoute. Puis, s'adressant à son aîné, Jean, ouvre ton atlas et montre-nous sur la carte l'endroit où nous sommes. Jean chercha la carte de l'Amérique septentrionale et la plaça sous les yeux de son père. Tous la regardèrent, tandis qu'il indiquait du doigt un point de la Sierra Nevada, situé un peu à l'est de Sacramento. « Voici l'endroit, » dit-il. « Bien, » répondit M. Cascabel. « Ainsi, une fois de l'autre côté de la montagne, nous aurions à parcourir tout le territoire des États-Unis jusqu'à New York ?»« Oui, père. »« Et combien de lieues cela fait-il ?» Environ 1300 lieues. Bon. Ensuite, il faudrait franchir l'océan ? Sans doute. Combien de lieues a-t-il cet océan ? À peu près 900 jusqu'en Europe. Et une fois arrivé en France, autant dire que nous sommes dans notre Normandie ? Autant le dire. Et tout cela fait... 2200 lieues ! S'écria la petite Napoléon qui avait compté sur ses doigts. Voyez-vous, la gamine ! Dit M. Cascabel. Cela c'est déjà l'arithmétique. Nous disons 2200 lieues. Environ, père, répondit Jean, et je crois que je fais bonne mesure. Eh bien, enfant, ce ruban de queue ne serait rien pour la belle roulotte s'il ne se trouvait une mer entre l'Amérique et l'Europe, une maudite mer qui lui barre le chemin. Et cette mer, on ne peut la passer sans argent, c'est-à-dire sans paquebot. Ou sans nageoire. Répéta Clou. Décidément, il y tient, répondit M. Cascabel en haussant les épaules. Donc, il est de toute évidence, reprit Jean, que nous ne pouvons aller par l'Est. C'est impossible, comme tu dis, mon fils, absolument impossible. Mais peut-être par l'Ouest ? Par l'Ouest ? S'écria Jean en regardant son père. Oui, vois un peu cela, et montre-moi par où il faudrait prendre pour faire route à l'ouest. Il faudrait d'abord remonter à travers la Californie, l'Oregon et le territoire de Washington jusqu'à la frontière septentrionale des États-Unis. Et de là, ce serait la Colombie anglaise. Pouah ! Fit Monsieur Cascabel. Et il n'y aurait pas moyen d'éviter cette Colombie ? Non, père. Passons. Et ensuite ? Une fois arrivés à la frontière au nord de la Colombie, nous trouverions la province d'Alaska. Qui est anglaise ? Non, russe. Du moins, jusqu'ici, car il est question de l'annexer. À l'Angleterre ? Non, aux États-Unis. Parfait ! Et après l'Alaska, qu'y a-t-il ? Il y a le détroit de Bering qui sépare les deux continents, l'Amérique de l'Asie. Et combien de lieues cela nous fait-il jusqu'au détroit ? 1100 lieues. Retiens bien, Napoléon, et tu additionneras ensuite. Et moi ? Demanda Cendre.
Toi aussi.
Maintenant, ton détroit, Jean, qu'est-ce qu'il peut bien avoir de large ?
20aine de lieues, père.
Oh ! 20aine de lieues ! Fit observer Madame Cascabel. Un ruisseau, Cornelia, autant dire un ruisseau. Comment ? Un ruisseau ? Oui, d'ailleurs, Jean, est-ce qu'il ne gèle pas l'hiver, ton détroit de Bering ?
Si, père, pendant 4 ou 5 mois, il est complètement pris.
Bravo ! Et on peut alors le franchir sur la glace ?
On le peut, et on le fait.
Ah, l'excellent détroit !
Mais ensuite, demanda Cornelia, est-ce qu'il n'y a plus de mer à traverser ?
Non, c'est le continent asiatique qui s'étend jusqu'à la Russie d'Europe.
Montre-nous cela, Jean.
Et Jean chercha dans l'atlas la carte générale de l'Asie que M. Cascabel examina attentivement.
Hé, voilà qui s'arrange à souhait, dit-il. S'il n'y a pas trop de pays sauvages dans ton Asie.
Pas trop, père.
Et où est l'Europe ?
Là, répondit Jean en appuyant son doigt sur la frontière de l'Oural. Et quelle distance y a-t-il depuis ce détroit, ce ruisseau de Bering, jusqu'à la Russie d'Europe ?
On compte 1600 lieues. Et jusqu'en France ? À peu près 600.
Et tout cela fait, depuis Sacramento,
3320 lieues !
S'écrièrent à la fois Cendre et Napoléon.
Un bon point chacun, dit M. Cascabel.
Ainsi, par l'Est, 2200 lieues.
Oui, père.
Et par l'ouest, 3300 environ.
Oui, soit 1100 lieues de différence.
De différence en plus par l'ouest, répondit M. Cascabel. Mais pas de mer sur la route.
Donc, enfin, quand on ne peut pas aller par un côté, il faut aller par l'autre. Et c'est ce que je vous propose de faire, tout bêtement.
Tiens, un voyage à reculons, s'écria Cendre.
Non pas à reculons, un voyage en sens inverse.
Très bien, père, répondit Jean. Toutefois, je te ferai observer que, vu la longueur du chemin, jamais nous ne pourrons arriver cette année en France, si nous allons par l'ouest.
Et pourquoi ?
Parce que 1100 lieues de plus, c'est quelque chose pour notre belle roulotte et son attelage.
Eh bien, enfant, si nous ne sommes pas en Europe cette année, nous y serons l'année prochaine. Et j'y pense, puisque nous aurons à traverser la Russie, où il y a les foires de Perm, de Kazan, de Nijni, dont j'ai si souvent entendu parler. Nous nous y arrêterons, et je vous promets que la célèbre famille des Cascabel y fera bonne figure et bonnes recettes aussi.
Quelles objections peut-on faire à un homme lorsqu'il a réponse à tout ? En vérité, il en est de l'âme comme du fer. Sous les coups répétés, elle se contracte, elle se forge, elle devient plus résistante. Et c'est précisément l'effet qui se produisait chez ces braves saltimbanques. Pendant cette pénible existence, nomade et aventureuse, où ils avaient eu à supporter tant d'épreuves, jamais, sans doute, ils ne s'étaient trouvés dans d'aussi fâcheuses circonstances. Leurs économies perdues, le retour au pays par les voies ordinaires rendues impossibles. Mais ce dernier coup de marteau leur avait été si rudement asséné par la mauvaise chance qu'ils se sentaient de force à tout braver dans l'avenir. Madame Cascabel, ses deux fils et sa fille applaudirent en chœur à la proposition du père. Et pourtant, c'était vraiment insensé, et il fallait que M. Cascabel fût singulièrement emballé dans son désir de revenir en Europe pour s'être résolu à mettre un tel projet à exécution. Bah,
Qu'était-ce d'avoir à traverser l'ouest de l'Amérique et la Sibérie asiatique du moment que l'on se dirigeait vers la France ?
Bravo, bravo ! S'écria Napoléon.
Et bis, bis ! Ajouta Cendre, qui ne trouva pas de mot plus significatif pour exprimer son enthousiasme.
« Dis donc, père, demanda Napoléon, est-ce que nous verrons l'empereur de Russie ?
Certainement, si Sa Majesté le Tsar a l'habitude de venir se divertir à la foire de Nijni.
Et nous travaillerons devant lui ?
Oui, pour peu que cela lui fasse plaisir.
Ah, que je voudrais bien l'embrasser sur les deux joues.
Peut-être devras-tu te contenter d'une joue, fillette, répliqua M. Cascabel. Mais si tu l'embrasses, prends bien garde d'abîmer sa couronne.
Quant à Claude Girofle, c'était de l'admiration qu'il éprouvait pour le génie de son patron et maître.
Ainsi, itinéraire bien arrêté, la belle roulotte remonterait à travers la Californie, l'Oregon et le territoire de Washington jusqu'à la frontière anglo-américaine. Il restait une cinquantaine de dollars environ, l'argent de poche qui, heureusement, n'avait point été déposé dans le coffre-fort. Cependant, comme une aussi faible somme ne pourrait suffire aux frais quotidiens du voyage, il fut convenu que la petite troupe donnerait des représentations dans les villes et villages. Il n'y avait pas d'ailleurs à se préoccuper des retards que ces haltes occasionneraient. Ne faudrait-il pas attendre que le détroit fût glacé sur toute sa surface pour offrir passage aux véhicules ? Or, il ne pouvait l'être avant 7 ou 8 mois.
« Et ce sera bien le diable, dit M. Cascabel, pour conclure, si nous n'encaissons pas quelques jolies recettes avant notre arrivée au bout de l'Amérique. »
À la vérité, dans toute la région supérieure de l'Alaska, faire de l'argent, au milieu des tribus errantes d'Indiens, c'était fort problématique. Mais jusqu'à la frontière occidentale des États-Unis, en cette portion du nouveau continent que n'avait point encore visité la famille Cascabel, nul doute que le public ne s'empressa rien que sur sa réputation, de l'accueillir comme elle le méritait. Au-delà, il est vrai, ce serait la Colombie anglaise, et, bien que les villes y fussent nombreuses, jamais, non jamais, M. Cascabel ne s'abaisserait à quêter des shillings ou des pence. C'était déjà bien assez, c'était déjà trop que la belle roulotte et son personnel fussent contraints à fouler pendant plus de 200 lieues le sol d'une colonie britannique. Quant à la Sibérie asiatique, avec ses longues steppes désertes, à peine y rencontrerait-on quelques-unes de ces peuplades samoyèdes ou tchouktchis qui ne quittent guère les régions du littoral. Là, pas de recette en perspective, sans doute. On le verrait assez lorsqu'on y serait. Tout étant convenu, M. Cascabel décida que la belle roulotte partirait dès le lendemain, au lever du jour. En attendant, il s'agissait de souper. Cornelia se mit à la besogne avec son empressement habituel, et tandis qu'elle fricotait, aidée de Claude Girofle. « C'est pourtant une fameuse idée, » dit-elle, « qu'a eu là M. Cascabel. »«
Oui, patronne, fameuse idée comme toutes celles, d'ailleurs, qui cuisent dans sa casserole, je veux dire, qui trottent dans son cerveau. »
« Et puis, Clou, pas de mer à traverser dans cette direction, et pas de mal de mer. »«
À moins que il n'y ait des roulis de glace dans ce détroit. »
Assez, Clou, et pas de mauvais présages.
Pendant ce temps, Cendre exécutait quelques sauts périlleux qui ravirent son père. Et, de son côté, Napoléon dansait gracieusement, tandis que les chiens gambadaient près d'elle. C'est qu'il y avait lieu maintenant de se remettre en haleine, puisque les représentations allaient être reprises. Soudain, Cendre de s'écrier.
Et les bêtes que nous n'avons pas consultées pour notre grand voyage ?
Courant aussitôt près de Vermouth.
Eh bien, mon vieux bidet, ça te va-t-il, une bonne trotte de 3 000 lieues ?
Puis, s'adressant à Gladiator,
qu'est-ce que vont dire tes pauvres vieilles jambes ?
Les deux chevaux hennirent ensemble, comme pour donner leur acquiescement. Se retournant alors vers les chiens,
Et toi, Wagram, et toi, Marengo, reprit Cendre,
allez-vous vous payer de belles gambades ?
Aboiements joyeux qui furent accompagnés de quelques sauts significatifs.
Il n'y avait pas à s'y tromper, Wagram et Marengo feraient le tour du monde sur un signe de leur maître.
C'était au singe à présent de donner son avis. « Voyons, John Bull, » s'écria Cendre, « ne prends pas cet air déconfit, tu vas voir du pays, mon garçon. Et si tu as trop froid, on te mettra une bonne jaquette. Et tes grimaces ? J'aime à croire que tu ne les as pas oubliées, tes grimaces. » Non, John Bull ne les avait pas oubliés. Et il en fit de si comique qu'il provoqua l'hilarité générale. Restait le perroquet. Cendre le fit sortir de sa cage, et l'oiseau se promena, remuant la tête et se balançant sur ses pattes. « Eh bien, Jaco, » demanda Cendre, « tu ne me réponds pas? Est-ce que tu as perdu ta langue? Nous allons faire un beau voyage. Es-tu content, Jaco ?»
Jaco tira du fond de son gosier une suite de sons articulés, où les airs roulaient, comme s'ils fussent sortis du puissant larynx de Monsieur Cascabel.
« Bravo !» s'écria Cendre. « Il est satisfait, Jaco. Il approuve, Jaco. Il a dit oui, Jaco. »
Et le jeune garçon, les mains en bas, les pieds en l'air, entama une série de culbutes et de contorsions qui lui valurent les bravos paternels. En ce moment, Cornélia parut.
« À table » cria-t-elle.
Un instant après, les convives étaient assis dans la salle à manger où le repas fut dévoré jusqu'à la dernière miette. Il semblait que tout était oublié déjà, lorsque Clou ramena la conversation sur le fameux coffre-fort en disant
« Mais j'y pense, monsieur patron. Ces deux coquins vont être bien attrapés. »
« Et pourquoi ?» demanda Jean.
« Puisqu'ils n'ont pas le mot, ils ne pourront jamais ouvrir le coffre. »
« Aussi, je ne doute pas qu'ils le rapportent, » répondit monsieur Cascabel en éclatant de rire. Et cet homme extraordinaire, tout à son nouveau projet, avait déjà oublié le vol et les voleurs.